Bon, je rappelle tout d'abord que les deux derniers séminaires du cours de cette année, donc tout à l'heure à 11h, ce sera Jacques Baudon du laboratoire de physique des lasers de Paris Nord qui va nous parler de modulation du profil transverse de G atomique par interférométrie Stern-Gerlach. Et mardi prochain, le 14 à 11h, ce sera Wolfgang Gartner, qui est professeur à Hanovre, à l'Institut pour l'optique quantique, qui nous parlera de la manipulation and phase engineering of Bose-Einstein condensate. Bon, alors aujourd'hui, je consacre une troisième séance à l'étude de la longueur de cohérence d'un condensat, parce que c'est vraiment une question, je pense, qui est très importante. Je rappelle donc très brièvement ce que j'ai fait jusqu'à présent. Après avoir étudié l'interférence entre deux condensats issus du même condensat qu'on a coupé en deux, je me suis concentré sur la longueur de cohérence d'un condensat et je vous ai parlé jusqu'ici de deux méthodes. D'abord, la première méthode qui a été mise en œuvre à MIT consiste à mesurer par vélocimétrie Doppler la distribution d'impulsion P de P des atomes qui sont condensés. Et comme nous le savons, la distribution d'impulsion P de P n'est autre que la transformée de Fourier de la fonction de corrélation spatiale G de A. Nous avons montré comment on peut mesurer P de P. De la largeur de P de P, on déduit la quantité H bar sur delta P, et nous avons vu que H bar sur delta P est de l'ordre de grandeur de la dimension spatiale du condensat, ce qui montre que la phase est la même en tous les points du condensat. Puis, ça c'était MIT. Puis la semaine dernière, je vous ai montré une autre méthode qui a été mise en œuvre à Gaithersburg dans l'équipe de Bill Phillips et qui consiste, elle, à mesurer directement G de A, la fonction de corrélation spatiale, en réalisant deux copies identiques du même condensat, séparées d'une distance petit a, et en mesurant l'intégrale de recouvrement, le produit scalaire des deux fonctions d'onde, qui n'est autre que la fonction de corrélation spatiale. Et en mesurant cette intégrale de recouvrement pour diverses valeurs de A, on détermine G de A. Et là aussi, on trouve que la longueur de cohérence du condensat est de l'ordre des dimensions du condensat. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une troisième expérience qui est en cours de publication à Nature et qui a été faite dans l'équipe de Ted Hensch à Munich et qui est une troisième méthode qui est peut-être la plus directe. Elle rappelle beaucoup l'optique. En optique, on veut mesurer la longueur de cohérence d'une source, on extrait deux champs optiques de deux points différents de la source et on les fait battre. On fait battre les ondes lumineuses qui sont issues de ces deux points. Dans cette expérience que je vais décrire aujourd'hui, on extrait deux ondes de matière cohérentes issues de deux points différents du condensat et on étudie les interférences entre ces deux ondes de matière. Donc c'est cette expérience que je voudrais décrire et dont je donne ici la référence. À ma connaissance, elle n'est pas encore publiée, j'ai vérifié encore hier. Elle est en cours de publication dans Nature de Emmanuel Bloch, Ted Hensch et Ted Islinger. Donc le principe de cette expérience, donc, c'est de, comme je viens de le dire, d'extraire deux ondes de matière de deux points différents du condensat, je vais expliquer comment, et de faire varier la distance entre ces deux points, de ces deux points sources. Alors, et on a deux ondes de matière qui tombent dans le champ de pesanteur, et on observe des interférences entre ces deux ondes de matière. Et ce qu'on fait, on regarde le contraste des franges d'interférence en faisant varier la distance petit a entre les deux points sources. Et quand petit a est plus grand que la longueur de cohérence, bien sûr, le contraste tend vers zéro, exactement comme en optique, on mesure donc la longueur de cohérence. Alors, le problème à résoudre, bien sûr, c'est comment sortir une onde de matière. Donc ça, c'est une introduction que je vous fais rapidement. Le problème essentiel, c'est quel est le couplage de sortie. Comment extraire l'onde de matière du condensat, en anglais « output coupler ». Alors, dans le cours de la semaine dernière, j'ai décrit à la fin du cours un coupleur de sortie utilisant des transitions rarement stimulées entre un état piégeant et un état non piégeant. Voilà, par absorption et émission stipulée de deux photons, l'atome quitte un état piégeant, se trouve dans un état non piégeant et sort du condensat, avec d'ailleurs une quantité de mouvement de sa barca, correspondant à l'impulsion transférée par son rayonnement. Ça, c'était un coupleur de sortie optique. En fait, le premier coupleur de sortie qui a été réalisé en 1997 utilisait non pas des fréquences optiques, des transitions optiques, mais des transitions de radiofréquence. Il était réalisé à MIT, dans l'équipe de Ketterle, par Marc Oliver Mewes et d'autres collègues. Je crois que c'est la référence 2 qui est ici. Mewes, Andrews, Kahn, Duffy, Thompson et Ketterle. Il utilisait des transitions de radiofréquence. Donc, avant de décrire l'expérience de Munich, je crois qu'il est important de passer en revue les coupleurs de sortie de radiofréquence en distinguant deux cas extrêmes, le cas des impulsions très brèves de radiofréquence et le cas des impulsions de radiofréquence très longues. Nous verrons que ça correspond à deux situations tout à fait différentes. Donc, je vais commencer d'abord par étudier le premier coupleur de sortie qui utilisait donc coupleur de sortie à impulsion de radiofréquence très brève. Alors, l'idée est très simple. Vous savez que dans un piège magnétique, par exemple, si je prends un niveau F égale 1, dans un piège magnétique, et que je mets un tel atome dans un champ magnétique inhomogène qui présente un minimum, le niveau MF égale moins 1 présente un minimum d'énergie au minimum de module de B. Le niveau MF égale 0, lui, n'est pas magnétique, et donc son énergie en fonction de la position, ici, Z, est là, et le niveau MF égale plus 1, lui, est le contraire, une parabole inversée, c'est un niveau antipiégeant. Si j'ajoute à ce potentiel magnétique le potentiel de la gravité, qui est le long de l'axe Z, qui est un potentiel linéaire, moins MGZ, cette parabole reste une parabole déplacée, et cette droite devient une droite penchée. Et j'obtiens la situation qui est représentée ici. J'ai donc un puits avec les atomes qui sont condensés dans ce puits et dans un état que j'appelle, que je dessine par cette fonction d'onde là en vert. Et puis l'état MF égale 0, c'est un état penché ici, une droite. Et qu'est-ce qui se passe? Si on fait une impulsion radiofréquence très très brève, accordée à cette fréquence-là, on va transférer quasi instantanément tous les atomes de l'état piégeant ici vers un état MF égale 0. Ils ne sont plus piégés, à ce moment-là ils tombent et ils s'échappent du condensat sous l'effet de la pesanteur. Alors, il faut maintenant que je précise un peu plus qu'est-ce que j'appelle une impulsion très brève. Parce que ça, c'est ça qu'il faut bien voir un peu qu'est-ce que ça veut dire très bref. Ça veut dire que la durée tôt de l'impulsion est très courte devant les fréquences de vibration du condensat. Donc pendant la durée de l'impulsion, la dynamique du condensat est complètement négligeable. Et d'autre part, je suppose que le spectre de Fourier 1 sur taux de l'impulsion est grand, si j'en viens à cette figure, je m'aperçois que les fréquences de résonance, entre l'extrémité supérieure du condensat, ça correspond à peu près à cette fréquence, l'extrémité inférieure, ça correspond à cette fréquence, vous voyez que les différents points du condensat n'ont pas la même fréquence de résonance entre le niveau MF égale moins 1 et MF égale 0, je suppose que la largeur spectrale de l'impulsion est grande devant cet écart de fréquence de résonance, de sorte que je peux considérer que tous les atomes sont résonnants. Pour tous les atomes, l'impulsion semble résonante. Le désaccord de fréquence peut être négligé devant le spectre de Fourier de l'impulsion. Donc, tous les atomes subissent la même impulsion. Si, par exemple, je fais une impulsion pi, je les transfère tous de l'état 0, de l'état moins 1 à l'état 0. Je peux aussi considérer que pendant l'impulsion, seuls changent les degrés de liberté de spin. Les variables orbitales n'ont pas le temps de changer. Donc chaque atome, après l'impulsion, est dans la même fonction d'onde phi de R, dans lequel il était avant, simplement son spin a changé. Alors ça c'est facile à comprendre ce qui va se passer. L'état initial c'était un produit symétrique de la même fonction d'onde pour tous les atomes, phi pour 1, phi pour 2, phi pour i, et puis tous les spins mf égale moins 1, après l'impulsion, juste après l'impulsion, tous les atomes sont dans l'état phi externe, et leur état spin c'est une certaine combinaison linéaire, t fois 1 plus r fois 2, des deux états de spin 1 et 2. En ce cas, se fait la transition radiofréquente. Et par exemple, si j'appelle oméga r, alors phi c'est la solution de l'équation de Gross-Pitaïski, et si j'appelle oméga r la fréquence de Rabi, t et r se calculent facilement et valent cosinus oméga r tau sur 2, et sinus oméga r tau sur 2, ou oméga r la fréquence de Rabi, tau la durée d'impulsion. Si je prends sinus oméga r tau sur 2 égale 1, c'est une impulsion pi, si oméga r tau sur 2 c'est pi sur 2, c'est une impulsion pi sur 2, et ainsi de suite. Donc l'état final est celui-ci. Et en écriture seconde quantification, l'état final peut s'écrire la somme en prenant cet état en élevant la puissance n, ça peut s'écrire sous la forme racine de factoriel n sur petite factoriel n, grand n moins petite n factoriel, petit r à la puissance grand n moins petite n, petit r à la puissance petite n, grand n moins petite n particule dans l'état 1, petite n particule dans l'état 2. D'accord, ça c'est juste simplement, c'est le A plus B, la puissance N. Et si vous regardez cet état, et que vous revenez au cours 3, quand par le transparent T82, vous trouvez, c'est ce que j'avais appelé un état de phase. Un état de phase relative. La phase relative est définie par T et R. En particulier, la proportion d'atomes qui sont transférés dans l'état 2 se calcule immédiatement à partir de cette formule. Ça, c'est une loi binomiale de valeur moyenne R2 pour le passage de 1 à 2 et la proportion d'atomes PG, valeur moyenne de petit n sur grand n, c'est égal à modulo carré de R, c'est-à-dire sinus carré oméga R tau sur 2. C'est exactement la même chose qui se passe lorsqu'on fait passer un faisceau lumineux à travers une nappe semi-transparente, on voit apparaître donc un faisceau de ce côté, un faisceau de ce côté, et là, les photons se répartissent entre les deux faisceaux conformément à cette formule. Si je pars évidemment d'un état de Fock initial. On peut montrer que si on part d'un état cohérent initial, les deux états après la lame semi-réfléchissante sont également des états cohérents. Plutôt que de faire une impulsion de radiofréquence, on peut aussi faire ce qu'on appelle un passage adiabatique, qu'on comprend bien en utilisant cette image d'atome habillé. Si j'appelle, alors je raisonne uniquement sur les degrés de liberté de spin, si j'appelle 1n l'état du système atome plus photon de radiofréquence, où l'atome est dans l'état 1 avec n photons de radiofréquence, et si je prends l'énergie θ comme zéro d'énergie, l'état 2n plus 1, atome dans l'état 2 avec un photon de plus, est représenté par une droite de pente 1, 2n plus 1, ça ce sont les deux états d'absence de couplage, qui ont la même énergie quand l'énergie du champ, H bar oméga 0, est égale à E1 moins E2. Quand on tient compte du couplage, on obtient un anticroissement, on obtient les deux états rouges, les deux états perturbés, qui sont les états habillés. Et si on balaye la fréquence du champ de radiofréquence en partant d'une valeur en dessous de résonance à une valeur au-dessus de résonance, et si on part de l'état 1n, vous voyez qu'en suivant adiabatiquement cet état, on se termine dans l'état 2n plus 1, on termine dans l'autre état avec un photon émis de manière stimulée. C'est une technique très courante en résonance magnétique qu'on appelle le passage adiabatique rapide et qui permet donc de faire la résonance très simplement pour tous les spins. Et il y a une formule fameuse, réputée, qui est la formule de Landau-Zener qui permet, pour un balayage de la fréquence oméga R, RF à vitesse constante, de calculer les probabilités de transfert R2 et de rester dans le même état T2 en fonction d'un paramètre gamma qui est oméga r au carré, le carré de la fréquence Rabi, que multiplie 4 d sur dt de oméga rf à la puissance moins 1. Les deux techniques ont été utilisées pour faire sortir les atomes du condensat, aussi bien la résonance magnétique que le passage adiabatique. En fait, j'ai raisonné ici sur un spin 1/2, deux états 1 et 2, mais la théorie est tout à fait généralisable à un système à trois états, moins 1, 0, plus 1, et je donne simplement pour mémoire ici les formules permettant de calculer l'effet d'une impulsion de durée tau sur un spin 1. Il suffit d'utiliser les matrices de rotation d'un spin 1 qu'on connaît bien, et après la rotation, après l'impulsion, l'état du spin est cosinus carré oméga r tau sur 2 moins 1 plus i racine de 2 sinus oméga r tau 0 plus moins sinus carré oméga r tau sur 2 plus 1. Ces trois éléments là, ce sont les éléments de matrice de la matrice de rotation de spin 1 d'un angle oméga r tau. Et on peut aussi bien sûr généraliser les expressions de la transition de Landau Zener. J'insiste pas là-dessus parce que c'est des choses bien connues en résonance magnétique. Et ce que je voudrais maintenant donner, c'est l'image de ce qu'on observe lorsqu'on fait sortir le condensat, une bouffée d'atomes du condensat. C'est la figure suivante. La figure suivante montre des photos de la bouffée d'atomes qui sort en faisant une série d'impulsions très courtes, séparées les unes des autres de, je crois, 5 millisecondes. Oui, une succession d'impulsions séparées de 5 millisecondes. Et on voit donc les atomes qui tombent dans le champ de pesanteur. Et vous voyez que ça a une forme de croissant. Et c'est facile à comprendre pourquoi. S'il n'y avait pas la pesanteur, les atomes qui sont passés de l'état moins 1 à l'état 0 ne sont plus piégés. Ils sont repoussés par les autres atomes qui sont, eux, dans le condensat. Et à ce moment-là, on a une explosion sphérique. On a donc une couche sphérique d'atomes qui quitte le condensat. Comme en plus ils tombent, cette couche d'atomes sphériques donne une forme un petit peu en croissant qui tombe. Et on voit très bien ici, on voit très bien cette forme caractéristique. Les formules précédentes ont été testées de manière très précise. Ici, sur cette figure, on donne la première, on donne la proportion d'atomes qui restent dans le condensat en fonction de l'amplitude oméga R du champ de fréquence, et la courbe qui est assez intérêt plein, c'est le carré du coefficient de moins 1 dans la formule à 3 niveaux, cosinus 4 oméga R tout sur 2, et un très bon accord. Et on peut aussi faire le transfert adiabatique en fonction du paramètre de Landau Zener pour passer dans l'état 0 ou pour en passer dans l'état 1. Donc on comprend bien ce qui se passe et on comprend bien le mécanisme de sortie des atomes. Comme les atomes, les différentes bouffées sont cohérentes les unes avec les autres, on peut considérer qu'on a une sorte de laser en impulsion qui émet des impulsions d'ondes de matière. Bien, alors, une fois qu'on a vu cette expérience, l'étape suivante, c'est bien sûr de dire, est-ce qu'on peut faire un laser continu? Est-ce qu'on peut faire un laser à ondes de matière continu? Est-ce qu'on peut faire donc une extraction d'atomes en régime continu? Ça, c'est un grand problème. Et il y a tout de suite deux problèmes auxquels on se heurte. On part d'un condensat. Si on sort les atomes, le condensat se vide. Donc, si on voulait vraiment faire un laser atome continu, il faudrait un mécanisme de repompage qui en permanence reforme le condensat. De la même manière que dans un laser, il y a en permanence un mécanisme de pompage qui réalimente le milieu amplificateur. Pour l'instant, à ma connaissance, personne encore a réussi à réaliser un tel dispositif, donc je ne l'aborderai pas ici, mais c'est un problème extrêmement important. Est-ce qu'on peut imaginer des technologies, des techniques permettant donc d'alimenter en régime continu un condensat pour compenser la perte d'atomes qui résulte de leur sortie? Deuxième problème, il faut réaliser un coupleur de sortie en régime continu, ou tout au moins avec des impulsions laser, des impulsions optique ou radiofréquence très très longue, et avec une amplitude et une fréquence aussi stable que possible, de manière à extraire les atomes toujours de la même région. Parce que si l'amplitude fluctue, à ce moment-là, on va extraire les atomes de régions différentes. Et on se heurte tout de suite là un problème délicat, difficile, c'est qu'il faut que le champ magnétique dans lequel qui piège les atomes reste stable pendant des périodes longues avec une précision suffisante. Donc il s'agit de faire un piège magnétique de stabilité suffisant. Donc, avant de décrire ces expériences qui ont été réalisées, donc, je vais d'abord décrire un piège qui a été réalisé à Munich, qu'on appelle le piège Quick, et qui est remarquablement stable. Alors, je le décris très brièvement parce que je vous conseille de vous reporter aux références où il est décrit plus en détail. C'est un pied très compact et qui utilise la combinaison d'un pied quadrupolaire et d'une configuration de Yoffe. Donc c'est quadrupole Yoffe configuration, c'est là l'origine du mot quick. Alors ici, cette figure représente deux bobines ici, celle-là et celle-là, qui sont parcourues par des courants sans s'opposer, donc quelques centimètres de diamètre, et une troisième petite bobine plus petite qui est dirigée suivant l'axe Y. Cet axe, c'est l'axe X, et la verticale, c'est la pesanteur, c'est l'axe Z. Alors, ce qu'on fait, c'est que les atomes sont d'abord piégés dans un MOT, un piège magnétoptique, puis ils sont transférés, il n'y a pas de courant dans la bobine de Yoffe, ils sont transférés dans le piège quadrupolaire. Et puis, on branche tout doucement le courant dans la petite bobine de Yoffe, d'axe OY. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai essayé sur le transparent suivant d'expliquer ce qui se passe. J'ai dessiné donc le long de l'axe Y, le long de l'axe de la petite bobine de Yoffe, ici. J'ai dessiné le champ total. Alors, comme vous le savez, le champ quadrupolaire, les bobines quadrupolaires, créent un champ dont le module croît linéairement qu'on s'écarte du centre du piège quadrupolaire. Donc, le long de Y, le champ quadrupolaire est représenté par une ligne droite, BQ. La bobine de Yoffe, qui est d'axe OY, est centrée en ce point, et ici, c'est le champ d'une bobine, d'une seule bobine, qui est maximum au centre de la bobine et puis qui décroît. Et j'ai dessiné ce champ pour trois courants croissants. Et le long de l'axe Y, on a donc la superposition du champ quadrupolaire et du champ créé par la bobine de Yoffe, il va y avoir certains points où il s'annule. Et pour avoir les points d'annulation, il faut que la somme de la courbe rouge et de la courbe bleue s'annule. Donc je prends la symétrique de la courbe bleue en pointillé, moins BQ, et je prends les points d'intersection de moins BQ avec BI. Alors vous voyez que quand le champ BI est tout petit, le zéro du nouveau piège que j'obtiens est décalé par rapport au zéro du piège quadrupolaire tout seul. Puis j'augmente BI, le zéro se déplace de plus en plus, et arrive un moment où la courbe a cette forme et à gauche de l'axe du centre de la bobine de Yoffe apparaissent deux zéros. Donc à ce moment-là, il apparaît deux zéros, c'est-à-dire deux minima de potentiel, et puis si j'augmente encore, ces deux zéros se rapprochent et disparaissent, et j'ai une configuration de Yoffe à ce moment-là. Et vous voyez que le champ résiduel, c'est ce champ qui est là, qu'on appelle des fois le champ bias, et vous voyez qu'il peut être aussi petit qu'on veut, il suffit d'arrêter le champ du secondier pour utiliser une petite valeur. Donc ça c'est pour voir ce qui se passe avec la bouffée avec les mains. Voilà maintenant des figures calculées, où on trace sur l'axe Y le champ quadrupolaire, puis quand on branche le courant Yoffe, on voit que le zéro se déplace un petit peu, il en apparaît deux, et puis ici, il n'y a plus de zéro, mais la distance entre le minimum de cette courbe et l'axe ici est toute petite, parce qu'on a réalisé un champ Yoffe avec un tout petit champ en bias. Et ici, c'est par exemple les lignes de champ dans le plan ZY, et on voit d'abord le champ quadrupolaire, et puis qui se déforme, les deux puits qui apparaissent ici, et finalement ensuite la configuration de Yoffe. Et on peut aussi s'amuser à voir à quoi ressemblent les nuages d'atomes piégés. Le champ quadrupolaire, on a un piège rond. On branche un petit peu le piège de Yoffe, la bobine de Yoffe. Le piège se déplace vers la droite. En fait, ici, la caméra a été déplacée vers la gauche parce que sinon, le piège serait sorti complètement d'ici. On voit le piège qui apparaît ici. On voit qu'il s'allonge. On voit apparaître les deux pièges ici et on voit ici le piège de Yoffe. Et si on revient en arrière, on voit apparaître de nouveau les deux zéros avec les deux pièges. Alors, l'avantage d'un tel piège, c'est qu'il est très compact, qui permet d'obtenir aisément un condensat à partir du piège magnétique et après refroidissement évaporatif, qu'il permet de travailler avec des courants relativement faibles, inférieur à 25 ampères, alors on peut facilement atteindre plusieurs centaines d'ampères dans les pièces magnétiques utilisées pour la condensation de Bose, Einstein, et que la puissance dissipée reste inférieure à 600 watts. Donc, le caractère compact du piège permet donc un fonctionnement relativement simple. Et comme il est petit, on peut le placer à l'intérieur d'un blindage magnétique qui blinde complètement les fluctuations du champ magnétique extérieur. Et avec une alimentation stabilisée, pour ces valeurs de courant, ce n'est pas trop difficile, les auteurs prétendent qu'ils arrivent à réduire les fluctuations de champ à moins de 0,1 mGauss, de 100 microgauss, et sur des périodes de plusieurs heures. Donc il y a vraiment un condensat dans un champ magnétique extrêmement stable. Et ça, c'est un atout. À ce moment-là, si on applique un champ de radiofréquence constant ou très long, d'amplitude faible, on sort les atomes. Et voilà par exemple un exemple du laser atome de Munich. On voit le jet d'atome qui sort. Alors, il n'est pas continu. Ici, l'impulsion a duré combien ? 15 millisecondes. Donc 15 millisecondes d'irradiation de radiofréquence. Et dans ça, alors évidemment, si on prend une amplitude de radiofréquence trop grande, on vide trop vite le condensat. Mais on a un jet qui sort qui est relativement intense. Si on diminue l'intensité du champ de radiofréquence, on sort les atomes moins rapidement et on peut rester 100 millisecondes. Ils sont arrivés jusqu'à 100 millisecondes. Donc c'est en quelque sorte un laser quasi-continu. Et vous voyez clairement, ici c'est les états M égale 0, et en appliquant un gradient de champ magnétique pendant la période d'expansion balistique, on peut séparer les atomes du niveau MF égale 1 et du niveau MF égale 2. Ça c'est dans le sodium, c'est dans le rubidium, pardon, dans le niveau F égale 2, MF égale 2. Et on peut donc mesurer séparément les populations de MF égale 0, MF égale 2 et MF égale 1. Alors, je n'ai pas le temps de le faire ici, mais si vous vous repensez à l'article, les auteurs évaluent la brillance d'une telle source en divisant le nombre total d'atomes qui sortent. Ils définissent la brillance comme le nombre total d'atomes qui sortent par unité de temps, par la durée de l'impulsion laser, delta T, par la surface de la source, delta X, delta Y, et par la dispersion de vitesse, delta Vx, delta Vy, delta Vz. C'est ce qu'ils appellent la brillance de la source, donc le nombre d'atomes par unité de temps, par unité de surface et par unité de volume dans l'espace des vitesses. Et quand on calcule ça, on trouve un gain de 8 ordres de grandeur, bien que ce laser ne dure que quelques millisecondes, la brillance pendant ces quelques est de l'ordre de 6 à 7 ordres de grandeur par rapport au jus atomique qu'on sait faire avec des ralentisseurs Zeeman ou avec des pièges magnéto-optiques, des atomes qu'on expulse d'un piège magnéto-optique. Donc ça montre la richesse potentielle de ces applications, la possibilité de faire des faisceaux atomiques cohérents, très très brillants par rapport aux faisceaux atomiques dont on dispose habituellement. Donc ça, je crois que ça mérite le nom quand même de laser à atomes. Alors, encore deux petits points. Le piège de Yoffe, à la forme d'un cigare, que vous avez vu, est un cigare allongé horizontalement. Il faut en effet que la gravité qui agit dans cette direction, il faut la mettre perpendiculaire au grand axe du cigare, de manière que le piège soit suffisamment confinant pour garder les atomes dans le champ de gravité. À ce moment-là, les atomes, à cause de la gravité, tombent un peu, et le minimum du puits résultant, quand vous ajoutez à une parabole comme ça, une droite inclinée, vous obtenez une nouvelle parabole, mais n'est plus centrée au même point. Le nuage d'atomes se déplace par rapport au zéro du champ magnétique. Et c'est ce qui est représenté ici. Ici, vous avez les cercles concentriques qu'il y a là, dans le plan XOZ, dans le plan perpendiculaire à l'axe du cigare, dans le plan XOZ. Ces cercles représentent les surfaces d'égale valeur du module de B. Et le condensat est représenté par ce petit rond grisé, ici, vous voyez qu'il est déplacé par rapport au centre du piège magnétique, au centre du zéro du champ magnétique. C'est là que l'action de la gravité plus le champ magnétique donne le minimum du potentiel. Vous voyez que cette distance est de l'ordre de 7,6 ou 7,7, 7,67 microns. Ça montre un peu que la largeur du condensat est de l'ordre de 3 à 4 microns. Et dans l'axe du cigare, on a le condensé qui a la forme d'un cigare et qui lui aussi tombé. Et vous voyez que si on raisonne de manière naïve, si on dit que si on applique un champ de radiofréquence donné, la résonance va se produire aux endroits où le champ magnétique est résonnant. Donc, pour chaque valeur de la fréquence oméga RF, il va avoir une ligne de résonance. Et vous voyez qu'on va pouvoir extraire les atomes de cette ligne, de cette ligne, de cette ligne. Donc, en variant la fréquence du champ de radiofréquence, on peut explorer le condensat et faire ce qu'on appelle une spectroscopie du condensat. Et, par exemple, ici, si on varie la fréquence nu RF du champ de radiofréquence, on explore différentes régions résonantes du condensat et on obtient le nombre d'atomes donc, qui restent dans le condensat en fonction de la fréquence de la radiofréquence, donne une courbe qui a une certaine largeur et cet écart entre la fréquence minimum et cette fréquence maximum donne l'écart entre la fréquence de résonance en ce point et la fréquence de résonance en ce point. D'accord ? Et si on prend un modèle de Thomas Fermi pour calculer la dimension du condensat, on peut calculer théoriquement l'intervalle de fréquence de la radiofréquence où on peut sortir les atomes, on trouve 10,2 kHz, alors que cet écart-là est de 13,1 kHz, ce qui est certainement dû au fait que dans le modèle de Thomas Fermi, on prend un arrêt du condensat brutal ici, et qu'en fait, cet arrondi-là et le condensat va un peu plus loin que ce que prédit le modèle de Thomas Fermi. Donc là encore, on contrôle bien ce qui se passe. Mais jusqu'ici, j'étais, à mon avis, un peu trop schématique pour décrire l'extraction, et je crois que ça vaut la peine maintenant de reprendre le problème de l'extraction d'un peu plus près. Et je voudrais maintenant, dans une quatrième partie, prendre une étude plus précise de l'extraction. Et dans une première étape, comme toujours, je vais négliger les interactions, puis après je mettrai en place les interactions. Alors, je néglige les interactions, je prends un gaz parfait, condensé. À ce moment-là, l'état initial, mf égale moins 1, il y a un puits parabolique, j'appelle psi 0 la fonction d'onde de l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, qui est située à une distance E0 égale, dans un modèle à une dimension 1,5 de h bar oméga 0 au-dessus du puits, donc psi 0 ici, et puis l'état mf égale 0, celui-ci, mf égale 0 ici, une droite à potentiel linéaire, mgz, et j'applique un champ de radiofréquence de fréquence nu RF. Et je l'applique pendant un temps très très long de manière que la conservation de l'énergie apparaisse dans l'équation de Schrödinger, dépendant du temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire la conservation de l'énergie? Ça veut dire que si je pars de cet état d'énergie-là, et 0, je coupe de manière résonante cet état-là à un état situé à une distance h nu RF en dessous. Je passe de E0 à l'état EF égale E0 moins h nu RF. L'horizontale d'ordonnée E0 moins h nu RF coupe la droite MGZ en un point d'abscisse Z0. Et donc je coupe cet état du spectre discret à un état du spectre continu dans ce potentiel. Et on connaît les fonctions propres de l'équation de Schrödinger dans un potentiel linéaire, c'est des fonctions qu'on appelle les fonctions de Airy. Donc j'ai dessiné une ici, c'est une fonction, évidemment, elle ne peut pas pénétrer dans cette zone qui est la zone interdite classiquement, mais elle pénètre exponentiellement en mécanique quantique, donc j'ai une décroissance très rapide ici. Et puis ici, par contre, j'ai une oscillation, d'autant plus rapide que je vais vers la droite, parce que l'énergie cinétique augmente de plus en plus. Et cette fonction, on la connaît, c'est la fonction d'Airy. AI de Z, si F. Donc je passe de cet état à cet état. Et si on calcule l'amplitude de transition, on trouve d'abord que l'amplitude de transition n'est nulle que si EF égale EI moins H nu RF. Attendez, avant de faire ça, je dis quelques mots de plus sur la fonction de Airy. Donc l'équation de Schrödinger dans le spectre continu, c'est moins H bar 2 sur 2M. D2 psi f sur dz2 plus mgz psi f égale ef psi f. En multipliant tout par moins 2m sur h bar 2, j'ai d2 psi f sur dz2 moins 2m 2g sur h bar 2, z moins df sur mg psi f égale 0. Si je prends des nouvelles variables, zeta égale 1 sur L, z moins EF sur MG, ou L3 égale H bar 2 sur 2M de G, il est facile de vérifier que L, c'est la seule longueur qu'on peut faire à partir de H bar M et G, qui sont les trois constantes qui apparaissent dans cette équation. Si je prends donc cette nouvelle unité de longueur, L, si je définis Z comme ça, j'ai une équation extraordinairement simple, d2 psi sur d zeta 2 moins zeta psi F égale 0. D'accord ? Et la solution de cette équation, c'est la fonction d'Ery. AI de zeta, qui est représenté ici, qui décroît très vite ici en zeta à la puissance moins 1 quart et puissance moins 2 tiers de zeta à la puissance 3 demi. Donc c'est vraiment une décroissance exponentielle d'une loi de puissance ici. Par contre, pour zeta très très grand, ça varie comme une exponentielle i 2 tiers de zeta à la puissance 3 demi. Donc ça oscille de plus en plus vite. Et une amplitude qui décroît comme zeta à la puissance moins 1 quart, 1 sur racine quatrième de zeta. Et la largeur de ce lobe ici, le lobe le plus gros, cette largeur-là est de l'ordre de petit l, de 1, c'est-à-dire quand je reviens à la variable z, de l'ordre de petit l. Donc ceci, l, qui est donné par cette formule, ça donne un petit peu l'ordre de grandeur typique des lobes d'oscillation de la fonction de Ery. Alors, je m'intéresse maintenant à l'amplitude de transition de l'état discret vers l'état du continuum. Et de la même manière qu'en physique moléculaire, c'est très voisin d'un problème de physique moléculaire, l'amplitude de transition n'est différente de zéro que s'il y a conservation d'énergie, et elle est proportionnelle à l'intégrale de recouvrement. L'intégrale de recouvrement de l'état initial et de l'état final. Donc c'est somme de psi 0 de z qui est réelle, normalement il faudrait mettre psi 0 étoile, mais c'est réel, psi 0 de z, ai de z moins z0 dz. Donc c'est vraiment analogie avec le facteur de Franck-Franzen. Alors j'ai dessiné ici psi 0 de z en bleu, qui a une largeur delta z, et le point z0 ici, que j'ai donné la construction géométrique tout à l'heure, est la fonction d'Ery, ai de z moins z0. Ou z0 et f sur mg. Alors, si vous regardez cette intégrale, vous pouvez dire que ça oscille très vite là, donc la contribution d'une arche positive et d'une arche négative vont se compenser, partout, celle-là compensée là, il va me rester que la contribution du premier lobe. Ça, c'est le raisonnement avec les mains. Si j'ai le temps tout à l'heure, je referai un raisonnement dans l'espace de Fourier, comme le suggérait Yvan Cassin, qui m'a conseillé de faire ça, et c'est beaucoup plus facile dans l'espace de Fourier. Je le ferai si j'ai le temps, et on peut vérifier effectivement que si il y a une grande différence d'échelle entre la largeur de psi 0 de z, delta z, et la largeur de ce lobe qui est petit l, c'est-à-dire si delta z est très grandement l, à ce moment-là, la seule contribution importante de cette intégrale provient du voisinage de z0, et on peut dire à ce moment-là qu'on est sensible à psi de z0. Et à ce moment-là, on peut dire dans un certain sens qu'on extrait les atomes d'un point bien défini. Mais normalement, c'est pas vrai. Normalement, c'est une intégrale de recouvrement qui fait intervenir tout l'axe des z. Mais quand on fait l'intégrale, la seule partie de l'intégrale qui contribue de manière significative, c'est psi de z0. À condition, bien sûr, qu'il y ait une grande différence de largeur. C'est la même raison pour laquelle, en physique moléculaire, quand on excite à partir d'un état fondamental un état dissociatif, on excite uniquement l'endroit où la particule rebrouche chemin, où donc elle passe le temps le plus long. C'est exactement le même type de raisonnement. Quelques sortes de grandeur. Pour le rubidium 87, si je ne me suis pas trompé, si on prend L, cette formule-là, on trouve L égale 0,3 micron. D'après la figure que je vous ai donnée, d'abord, si on prend maintenant l'extension de l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, compte tenu des fréquences d'oscillation qui sont de 140 Hz, on trouve delta Z0 est égal à 0,9 micron. Ça n'a pas l'air beaucoup plus grand, mais attention, ça c'est l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. À cause des interactions, le condensat gonfle, et j'en ai pas encore tenu compte des interactions, mais la vraie largeur du condensat, c'est plus grand que ça. Et quand vous regardez la figure, vous trouvez que c'est plutôt 3-4 microns. Donc il y a un ordre de grandeur entre L et delta Z, et cela on peut considérer vraiment que delta Z est grandement L et qu'on extrait les atomes d'un point bien défini du condensat. Alors, je passe maintenant aux interactions. Alors, quand j'ai des interactions, je m'intéresse d'abord à l'état initial. L'état initial, psi de Rho, c'est la solution d'une équation qui n'est plus l'équation de Schrödinger, mais qui est l'équation de Gross-Pitaïevski. Et l'énergie qui vient de changer, maintenant, c'est plus les zéros, c'est mu, le potentiel chimique. D'accord ? C'est ce que j'ai dessiné ici, le potentiel mu. Et si je suis à la limite où il y a beaucoup d'atomes, je sais à ce moment-là que je peux faire l'approximation de Thomas Fermi, c'est-à-dire que dans l'équation de Gross-Pitaïevski, je néglige le terme en moins h bar 2 sur 2m, bêta psi sur 2z2, et à ce moment-là, j'ai une équation, psi se simplifie des deux côtés, et j'ai une équation qui est v2z plus gn2z égale mu. De sorte que si v2z est parabolique, j'ai n2z égale mu moins v2z sur g, j'obtiens une parabole inversée pour n2z. Ici, si vous regardez cette formule, on peut voir sur cette formule graphiquement comment déterminer la densité d'atomes en chaque point z. En effet, l'ordonnée de la droite en vert ici, c'est mu. Ceci, c'est v2z. Donc, v2z plus quelque chose égale mu. Donc, AB, c'est gn2z. Donc, la distance entre la droite d'ordonnée mu et la parabole, c'est g fois, où g est la constante de couplage, 4pi h bar 2 sur ma, 4pi h bar 2 a sur m. Donc, la densité d'atomes, c'est tout simplement la distance entre mu et la parabole. D'accord ? La parabole de Piaget. Bon. Alors, ça, c'est dans l'état initial. L'atome part dans l'état final. Il sort du condensat. Il est dans un autre état magnétique. Mais il continue à sentir l'interaction des atomes du condensat. Et je suppose que je suis encore à un instant suffisamment court pour que le condensat ne se soit pas vidé. D'accord ? Alors, quel est le potentiel dans lequel vont voir, entre guillemets, les atomes qui sortent du condensat ? Ils vont voir le potentiel de gravitation, mgz, et puis les atomes qui sortent au point z, ils vont voir une énergie d'interaction qui est AB, ici, gn2z. Donc il faut que j'ajoute à la droite ici, un segment CD égale AB, et pour chaque point Z, et j'obtiens ici maintenant la courbe vue par les atomes quand ils sortent du condensat. Alors évidemment, si j'attends trop longtemps, N2Z va diminuer et ce potentiel apparent va varier. Mais au début, quand ils sortent, voilà le potentiel qu'ils voient. Donc, on a une transition entre cet état et un état propre de l'équation de Schrödinger dans ce potentiel. Et maintenant, je suis prêt à aborder le dernier point de l'exposé. C'est extraction de deux ondes de matière. L'idée est très simple. Au lieu d'appliquer un champ de radiofréquence, on va en appliquer deux, l'un de fréquence oméga, l'autre de fréquence oméga prime. Et moi j'aime bien les constructions graphiques parce qu'on voit bien ce qu'on fait, on peut voir tout de suite maintenant ce qu'on fait sur cette construction graphique. Je pars de l'état initial, mu, au-dessus du fond du puits, et j'applique deux fréquences, oméga, oméga prime, c'est-à-dire que je change l'énergie de h bar oméga et h bar oméga prime. Donc je trace deux horizontales décalées de celle-là de h bar oméga et h bar oméga prime. Et ces deux horizontales coupent le potentiel dans l'état du bas dans ces deux points, l'abscisse Z0 et Z'0. Et les courbes que j'ai tracées en violet, c'est les fonctions propres de l'équation de Schrödinger dans ce potentiel. C'est plus tout à fait des fonctions de RI, hein, puisque le potentiel n'est plus linéaire, mais c'est pas très loin de fonction de RI, c'est à la même allure. On va avoir une fonction monde ici et une fonction monde ici. Et si le log ici est petit devant ça, je vais avoir extraction des atomes de ce point et de ce point. Donc on peut vraiment, en variant oméga et oméga prime, on est maître des deux points dont on extrait les deux ondes de matière. Alors, les ondes de matière vont partir, et on va les voir hors du condensat, c'est-à-dire on va les voir dans la zone asymptotique ici. Alors, quelle est leur interférence dans la zone asymptotique? Alors, ici, une petite remarque, hein, il suffit de varier oméga et oméga prime pour varier Z0 et Z'0, et donc pour faire varier l'écart entre les deux points d'où sortent les deux ondes de matière. Et donc, pour mesurer un petit peu, pour aller sonder un peu le condensat en deux points différents. Alors, je me place loin maintenant. Et l'onde de sortie, phi out de zeta, et phi out de zeta prime, l'une pour oméga, l'autre pour oméga prime, ça va être 1 sur zeta à la puissance 1/4, 1 sur zeta prime à la puissance 1/4, exponentielle de e puissance i 2 tiers de zeta à la puissance 3/2, 2 tiers zeta prime à la puissance 3/2. Et puis, il ne faut pas que j'oublie le facteur d'énergie. C'est des tas propres de l'énergie, donc ça varie en e puissance moins mu, moins h bar oméga t sur h bar, moins mu, moins h bar oméga prime t sur h bar. Et dans ces formules, j'ai zeta égale 1 sur L, Z moins Z0, zeta prime égale 1 sur L, Z moins Z0, Z0 égale ES sur MG, c'est-à-dire mu moins H bar oméga sur MG, Z'0 c'est mu moins H bar oméga prime sur MG. J'ai donc zeta moins zeta prime, c'est Z0 moins Z'0 sur L, c'est H bar delta oméga sur MGL, c'est ES prime moins ES sur MGL. Donc en variant delta oméga, je varie zeta moins zeta prime, et je varie donc delta z. Et qu'est-ce que c'est que le signal? On mesure le nombre d'atomes qui sortent. Donc il faut que je prenne phi out de zeta plus phi out de zeta prime en module au carré. Comme je suis très loin et que la distance entre les deux points de départ est très petite, elle est de l'ordre de quelques centaines de microns, je peux remplacer dans le terme de qui décroît très lentement, je peux prendre le même pour les deux, 1 sur zeta à la puissance 1/2, ça au carré c'est 1 puissance 1/2, et j'ai cette exponentielle plus cette exponentielle au carré. Et je vais avoir 1 plus 1 plus 2 fois la partie réelle de ces deux choses-là, c'est-à-dire plus 2 fois cosinus de 2 tiers de zeta puissance 3/2 moins zeta prime puissance 3/2 plus oméga moins oméga prime t. Voilà le signal d'interférence. Encore quelques petits calculs intermédiaires. Zeta prime à la puissance 3/2, c'est zeta plus zeta prime moins zeta à la puissance 3/2. C'est un développement, donc c'est zeta à la puissance 3/2 plus 3/2 de zeta prime moins zeta à la puissance 1/2. Et j'en déduis donc que ce terme-là, c'est zeta moins zeta prime, qui me dit zeta à la puissance 3/2. Donc ça varie un cosinus racine de z, plus oméga moins oméga prime t. Où q, c'est delta z sur l puissance 3/2, c'est m delta z racine de 2g sur h bar. Alors ça, ce serait le cas si les deux ondes interféraient de manière parfaite. Si il y a une perte de phase d'une onde par rapport à l'autre, il faut que j'ajoute un terme de contraste, et on fixe les résultats expérimentaux, non pas avec cette formule, mais avec cette formule où v, ici, le facteur oscillant ici, c'est ce qu'on appelle le contraste. D'accord? Alors, l'expérience consiste à observer le signal d'interférence, à le fitter par cette courbe, et à regarder comment V, le contraste, varie en fonction de delta Z, la distance entre les deux points sources. Alors, avant de vous donner les résultats expérimentaux, je crois qu'il est nécessaire que je revienne sur le cours 2, et que je rappelle un certain nombre de résultats du cours 2. Dans le cours 2, j'ai étudié la fonction de corrélation d'un condensat. Et les résultats sont particulièrement simples quand je prends un condensat homogène dans une boîte. C'est plus compliqué dans un puits, mais je vais rappeler les résultats dans une boîte, étant bien entendu que si on prend deux points propres devant la dimension du condensat, les formules du condensat homogène ne sont pas trop mauvaises. Donc, pour un condensat formé par un gaz parfait de boson dans une boîte, vous vous rappelez ce qui se passe. Quand je suis très très au-dessus de la température critique, quand le système n'est pas du tout condensé, la fonction de corrélation, G1 de R moins R', c'est une gaussienne, N sur la L3, N le nombre total de particules, L cube le volume de la boîte, et puissance moins pi R moins R' au carré sur lambda t carré, où lambda t c'est la longueur d'onde de De Broglie. Donc, très au-dessus de la température critique, la longueur de cohérence, c'est la longueur de De Broglie, thermique, qui est donnée par cette formule. on descend la température et on se rapproche de la température critique. Quand je me rapproche de la température critique, vous vous rappelez qu'au lieu d'avoir une seule gaussienne, on a une somme de gaussiennes dont les largeurs sont lambda t sur racine de pi, lambda t racine de 2 sur racine de pi, lambda t racine de 3 sur racine de pi, et quand j'ajoute toutes ces gaussiennes, je vais avoir une courbe dont la largeur est plus grande que lambda t. Donc, quand je descends la température et que je me rapproche de la longueur critique, la longueur de cohérence croît. Quand on atteint la température critique, la fonction de corrélation prend une valeur universelle, G1 critique de R moins R' qui est donnée par cette formule, 1 sur lambda t cube, somme de, sur L de 1 à l'infini, de 1 sur L puissance 3,5 et puissance moins pi R moins R' au carré sur L lambda t carré. Et j'ai étudié, à ce moment-là, comment varier la queue de cette fonction de corrélation pour R moins R' grand. Et nous avons vu que ça variait en 1 sur R moins R'. Toute échelle de longueur disparaissait, et on avait donc une loi de puissance pour la décroissance de la fonction de corrélation qui montrait que le système perdait toute échelle de longueur et qu'il y avait un ordre à longue portée qui commençait à s'établir. Et enfin, quand la température était en dessous de la température critique, la fonction de corrélation partait toujours de L sur L3, c'était G1, ceci c'est G1 critique, avec donc une L en 1 sur R, au-dessus d'un fond constant qui est N0 sur L3. Autrement dit, en dessous de la température critique, aussi loin que je vais dans un système homogène, il y a cohérence spatiale qui montre qu'il y a un ordre à très longue portée qui s'est établi. Voilà donc les résultats théoriques. Alors comment ça se compare maintenant avec l'observation de cette expérience? Alors voilà une figure extraite de la référence qui n'est pas encore publiée, mais ils ont eu l'amabilité de m'envoyer un tir à part. Et en fait, il faudrait voir les figures dans ce sens-là, parce que les atomes tombent verticalement. On voit en rouge le condensat, et puis en dessous, c'est les deux champs de matière qui battent, l'une avec l'autre. Et vous voyez que pour T plus petit que TC, on a un battement splendide, avec une formule en plus sur racine de Z, parce que ça, on voit bien les ondes qui se renforcent et qui disparaissent, et la courbe ici en rouge, c'est la courbe théorique à partir de la formule que j'ai donnée tout à l'heure. Et on a une visibilité remarquable ici. Quand T est de l'ordre de TC, vous voyez, on continue à voir, on voit quelque chose encore, mais c'est beaucoup moins net, la visibilité. Le contrat, et quand T est plus grand que TC, on ne voit plus rien. Ici, le delta Z entre les deux points sources, c'est de 465 nanomètres, qui correspond à une différence de fréquence, oméga moins oméga prime sur 2 pi, de 1 kHz. Et l'autre courbe que je trouve encore plus belle, c'est la courbe donnant comment varie la visibilité, le contraste, pardon, en fonction de Z moins Z prime. Alors, les courbes jaunes et bleues ici, ces deux-là, correspondent à T plus grand que TC. Alors, la courbe jaune, c'est 290, la courbe bleue, c'est 450. Alors, vous pouvez dire, mais 290, c'est très bas, on doit être en dessous de TC. Non, on est au-dessus de TC parce qu'on a diminué considérablement le nombre d'atomes. Donc, ces deux courbes ne sont pas prises avec le même nombre d'atomes. Elles sont prises avec des nombres d'atomes différents, mais chaque fois, on est au-dessus de TC. Et là, vous voyez, à ce moment-là, qu'on a une fonction de corrélation, la visibilité, le contraste d'étrange, en fonction de delta Z, part d'une valeur de l'ordre de 1 et tend vers 0 au bout de quelques 300 à 100 nanomètres. D'accord? Et si vous calculez les longueurs d'onde de De Broglie thermique de ces deux choses-là, vous trouvez que la largeur de cette gaussienne et la largeur de cette gaussienne sont 5% de plus que les longueur d'onde de De Broglie thermique correspondant à ces valeurs. Ce qui correspond bien au fait qu'on est au-dessus de TC, mais pas trop au-dessus de TC, comme on a cette somme de gaussienne, la longueur de cohérence est un peu plus grande. Maintenant, les deux autres courbes qu'il y a ici, en rouge et en vert, correspondent à 250 nanokelvin et 310 nanokelvin, elles sont fait plus petites que TC. Et vous voyez à ce moment-là que le contraste des francs diminue et tend vers un plateau. exactement ce qu'on prévoit là-bas. Alors évidemment, un plateau va jusqu'à 700 nanomètres. Si on allait beaucoup plus loin, jusqu'à 3 microns, la dimension du condensat s'assombrerait, sur la longueur de cohérence et la longueur du condensat. Mais on voit ici un plateau, ici, très clairement. Et ce que je trouve remarquable, c'est que si on prend cette courbe-là, et que les 11 derniers points ici... Alors, le site ici est une gaussienne. Mais si on prend les 11 derniers points, ils sont beaucoup mieux ajustés avec une courbe en 1 sur delta z, qui correspond bien au fait que j'ai un critique décroît comme 1 sur delta z et non pas comme une gaussienne. Donc on a même la précision suffisante pour voir la décroissance de la fonction de corrélation en 1 sur delta z. Donc je trouve que c'est vraiment une très très belle expérience qui fait vraiment pour des ondes de matière l'équivalent de ce qu'une manip d'optique fait pour une source d'optique. On mesure vraiment la longueur de cohérence du condensat. Alors, puisqu'il me reste encore quelques minutes, je peux revenir au problème que je posais tout à l'heure. Là, je ne l'ai pas donné dans les notes, mais c'est vraiment très, très facile. Je reviens à la fonction de Airy, AI de zeta, et j'appelle AI chapeau de kappa la transformée de Fourier de AI de zeta. Alors, AI de zeta satisfait à l'équation moins d2 sur dt zeta 2 de AI de zeta plus zeta AI de zeta égale 0. Ça, c'est l'équation de Schrödinger dans le potentiel linéaire, avec des variables convenablement normalisées. Quand on prend la transformée de Fourier, la dérivée devient la multiplication. Et deux fois la dérivée, c'est deux fois I kappa, donc c'est ici j'ai kappa 2 AI de kappa, et zeta, la multiplication par zeta, ça devient au contraire la dérivée par rapport à d kappa, donc c'est I d sur d kappa. Et l'avantage de passer en transformée de Fourier, c'est qu'on remplace cette équation du deuxième ordre par une équation du premier ordre. Et l'intégrale de cette équation, sa solution, c'est très simple, c'est d de AI sur AI égale K2 dk, donc l'intégrale c'est AI de kappa égale T puissance I kappa 3 sur 3, cosinus kappa 3 sur 3 plus I sinus kappa 3 sur 3. D'accord? Et zeta, c'est z moins z0 sur L, et kappa, c'est kl. Si je reviens aux variables non changées d'échelle. Alors, je peux de la même façon définir psi 0 chapeau de k, la transformée Fourier de psi 0 de z, et j'ai donc psi 0 de z égale somme de psi 0 de k et puissance i kr. Si je prends r égale z0, ou z égale z0, l'exponentielle devient 1, parce que l'exponentielle ici, c'est puissance i kz moins z0, et j'ai donc l'intégrale sur k de psi 0 de kappa, c'est psi 0 de z0. D'accord? Et j'ai l'égalité de Parcheval-Planck-Schrell, qui me dit que l'intégrale des deux fonctions dans l'espace des z, c'est la même chose que l'intégrale des deux fonctions dans l'espace des k. J'ai utilisé ici le fait que psi 0 est réel, hein, ou que ai de z est réel. Voilà. Alors, si cette formule étant donnée, j'ai dessiné ici, mais de manière très mal, je m'en excuse, hein, je n'avais pas d'ordinateur pour faire cette figure. J'ai dessiné ici cosinus K3 sur 3, sinus K3 sur 3, ça c'est la partie réelle et la partie imaginaire de la puissance I K3 sur 3, qui sont donc la transformée de Fourier de la fonction d'Airy, et dont la largeur ici, la fonction d'Airy dans l'espace des Z, ça a une largeur L, donc dans l'espace des K, ça a une largeur 1 sur L. Et j'ai dessiné ici psi 0 de k, qui est la transformée de Fourier de psi 0 de z0, qui lui a une largeur delta z. Et vous voyez que si delta z est beaucoup plus petit que l, d'abord l'intégrale par la partie imaginaire, ça va me donner quelque chose de tout petit, et l'intégrale par la partie réelle, si je remplace ça par le maximum, ceci va être de l'ordre de ai 0 somme de dk psi 0 de k, et ça c'est rien d'autre que psi 0 de z0, et je trouve ainsi très facilement que l'intégrale de regroupement de la fonction d'Airy avec une autre fonction, c'est la valeur de la fonction large au point de définition de la fonction d'Airy. Voilà, j'en ai fini avec ce cours-là. Il ne me reste plus qu'un cours la semaine prochaine. Et après avoir parlé en très grand détail de ce qui se passe sur un condensat, je décrirai la semaine prochaine toute une série d'expériences également passionnantes qui ont été faites à Boulder, où par une impulsion de radiofréquence, on prépare deux condensats piégés, pas un condensat libre, quelque chose qui semble, mais deux condensats dans le même piège, où on étudie les interférences donc entre deux condensats piégés. Donc ce sera donc le dernier cours que je fais. Merci.